Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'art. Nous irons faire une visite au salon Art Shopping Paris qui s'est tenu pendant le mois d'octobre. Nous irons à la rencontre de Geneviève à la 23e marche librairie-galerie d'Auvers-sur-Oise. Je vous proposerai également la lecture d'une graine de mémoire réalisée par le conteur itinérant Ludovic Souliman. Et nous terminerons avec un micro-trottoir réalisé par le collectif Bataillon d'exploration des droits de l'enfant, qui ont voulu parler des droits de l'enfant. Ils sont partis à la rencontre des Persanais et Persanaises pour un petit quiz sur les droits de l'enfant. Belle journée à tous.
Bonjour, je suis Morgane de la MJC. Vous écoutez les rendez-vous de Marie.
L'art est un média de communication. Il permet de communiquer des idées, des impressions et même des émotions. C'est un instrument d'éducation et de diffusion du savoir. Il forge les souvenirs. L'art est utilisé aujourd'hui en thérapie. Et pour beaucoup d'artistes, excusez-moi si je m'en mêle les pinceaux, le mot « expression » définit bien le sens de l'expression même de la liberté d'expression. Je vous propose aujourd'hui une visite guidée au salon Art Shopping Paris qui s'est tenu du 22 au 24 octobre au Carrousel du Louvre. Le rendez-vous incontournable de la scène artistique française et internationale de l'art contemporain. L'art peut contribuer à provoquer un changement dans la vie de quelqu'un. Il agit parfois comme un catalyseur.
Ce que je vous propose, c'est qu'on... On aille de stand en stand un petit peu, qu'on se balade.
Les artistes ne sont pas encore arrivés.
Oh, non, effectivement, le salon ouvre à 11h. Donc là, on est un petit peu dans les coulisses, dans les prémices. Donc on est les petits chanceux, on a le salon rien que pour nous. Alors à chaque fois, vous avez donc le nom des stands. Donc, chaque artiste ou galerie a un stand ici. C'est un salon qui propose vraiment à ces deux acteurs du marché de l'art de participer au salon. Donc à chaque fois c'est précisé, hein, artiste ou galerie, voilà. Chaque artiste est sur son stand et ça permet vraiment de créer la rencontre en fait.
Et vous étiez là pendant ces trois jours ?
J'étais là pendant ces trois jours. Alors le vernissage, il y a eu vraiment une très très belle fréquentation, énormément de monde, une très belle affluence. Hier aussi c'était vraiment en flux continu et en plus avec la vente qui se tenait hier à 16h30, il y a eu énormément de monde. On avait du mal à se faufiler entre...
C'est une première cette année.
C'est la première fois, exactement. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Oh, alors, oui. On est dans la salle de l'Orme. Parce que vous voyez, donc, il y a le salon est constitué en trois parties. Il y a trois ailes ici au Carrousel du Louvre. On a le très beau travail d'artistes et de galeristes internationales surtout. Là, par exemple, c'est un artiste polonais. À gauche, là, c'est une galerie, la Pax Galerie, qui propose un travail très dense de tous ces artistes. À notre droite, on a une artiste japonaise. Tous les médiums sont représentés ici. Il y a aussi bien voilà, de la peinture. Ici, un travail vraiment en trois dimensions, un peu comme un bas-relief, effectivement. C'est ça qui est vraiment bien au salon Art Shopping, c'est que tous les arts sont représentés. Cette année, il y a un parcours dédié pour le portrait, thème qui est mis à l'honneur cette année. Il y a aussi la photographie, comme on vient de le voir avec l'envol. Pendant les trois jours, il y a eu des performances d'artistes qui étaient à plusieurs endroits du salon. Et aujourd'hui, il y a encore deux performances. Il y a absolument tous les âges. C'est un public extrêmement varié. Il y a même là une galerie coréenne. Donc c'est ça, il y en a pour tous les goûts. Ouais, on retrouve de l'art urbain, de la sculpture. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est souvent très coloré. C'est un salon qui est vraiment très punchy, quoi. Regarde, on peut même faire des œuvres d'art sur place avec son œil. Ouais, c'est fantastique. Ça rend super bien. C'est Lali. Ouais, c'est celui qui est juste après. Regardez, après. Ça et ça. Donc elle présente la série Pablo qui détourne le cubisme de Picasso. C'est un petit mélange entre Liechtenstein et Picasso, quoi.
Entretien téléphonique avec Lali l'artiste. Lali l'artiste, bonjour.
Bonjour. Vous faites partie des artistes qui ont exposé pendant le salon Art Shopping Paris, le salon international d'art contemporain. Vous avez proposé la série Pablo, qui illustre des émotions des femmes offusquées et offensées. Comment vous est venue la peinture? Est-ce que c'est inné chez vous?
En fait, oui, depuis toute petite, je peins, je dessine. J'ai une formation artistique, donc j'ai fait une licence d'art plastique et puis ensuite un diplôme de communication visuelle à l'Académie Charpentier. Donc voilà, j'ai baigné dans le dessin, la peinture. Et ensuite, je me suis dirigée plutôt vers le design graphique et je suis restée 20 ans en agence de design à Paris. Puis j'ai été rattrapée par mon amour d'enfance, la peinture, les arts plastiques. Et il y a 3-4 ans, je me suis remise à peindre un peu plus, avec plus de constance. Parce qu'avant, je le faisais mais vraiment sur mes heures perdues en parallèle de mon boulot. Mm-hmm. Et puis là, voilà, c'est revenu et j'ai retrouvé des sensations de liberté de peindre et puis voilà. Donc c'est pour ça que je me suis décidée il y a 3 ans de me consacrer complètement aux arts plastiques.
Une œuvre, c'est un conte. Elle raconte une histoire.
Oui, toujours.
Beaucoup d'histoires. Et quelles sont les vôtres?
Alors je suis. C'est vrai que. Alors on peut. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, en fait, qui ont besoin, enfin, tous les artistes ont besoin d'exprimer des émotions, des choses, et c'est vrai que moi, par mon parcours en agence, j'ai pas voulu mettre mes tripes, en fait, sur la toile, et donc je suis plutôt du style à être un peu en retenue. Mais j'ai besoin d'exprimer quelque chose, mais je veux pas l'exprimer avec violence. Et j'ai besoin d'avoir un petit peu de retenue. Et c'est pour ça que les tableaux que je propose, ils sont un peu pop, avec des couleurs flash et avec de l'humour. Mais c'est parce que je préfère cacher, en fait, des choses que je ressens. Voilà, c'est la pudeur. Mmh.
Votre style, c'est le cubisme?
Alors en fait c'est pas mon style. Non, mm-hmm. En fait le cubisme c'est pas mon style, c'est d'accord. Plutôt une référence à Picasso, mm-hmm. C'est plutôt un détournement. Donc en fait un détournement du cubisme, parce que je fais deux tableaux où il n'y a pas de cubisme, c'est plutôt une réponse à Picasso et c'est un détournement du cubisme, parce que Picasso, voilà, dans son cubisme a déformé en fait le principe même, hein, c'est de montrer plusieurs facettes mm-hmm. d'un objet ou d'une personne, et donc du coup ça fait un peu comme une défiguration. Et là l'idée c'était de détourner le cubisme de Picasso et de montrer justement tous ces portraits de femmes de Picasso qui ont été présentés via le cubisme, en fait elles sont déformées. Et là l'idée c'était de reprendre et de donner la parole aux femmes qui ont été défigurées, mmh. et défigurées un petit peu comme, c'est comme un symbole, le symbole d'outrage qu'on peut leur faire. Et en fait, elle réplique. Et chacune prend la parole et répond à cette offense. Parce qu'on les a défigurées.
Ça parle bien. Les couleurs sont judicieusement choisies. Et est-ce que vous pourriez nous décrire un de vos tableaux? Enfin, là, j'ai une image sous les yeux. Ouais. Il y a une femme défigurée et c'est écrit « Pablo, j'ai fait quoi pour mériter ça ?»
Ouais. Oui, Munch alors, parce qu'en fait, c'est une référence au cri de Edvard Munch. Donc en fait, j'aime bien aussi avoir des références culturelles et artistiques à d'autres courants artistiques ou d'autres artistes. Donc celui dont vous me parlez, il fait référence au célèbre tableau de Le cri de Edvard Munch. Et donc là, l'idée, c'est que la femme, elle s'offusque, qui a dit, mais Picasso, j'ai fait quoi pour mériter ça? Pourquoi tu me défigures? Pourquoi tu me fais ça? Et en réalité, on ne sait pas trop, mais Picasso, dans la vraie vie, c'est vrai, de toute façon, c'est un génie, mais il était vraiment, vraiment pas sympa avec les femmes. Alors ça, c'est un peu méconnu, mm-hmm. mais en réalité, c'est vraiment un vrai mufle. Avec les femmes, c'est une horreur, ce type. Moi, c'est vrai que les gens qui font l'histoire de l'art le savent, donc ils voient un petit peu ce côté aussi dans ma série Pablo. C'est aussi pour ça que j'ai détourné le cubisme. Voilà.
Vos œuvres attirent quel genre de collectionneurs ?
Alors, en fait, je pense qu'il faut être peut-être un peu...
Est-ce qu'il y a des passionnés d'art abstrait ?
Oui, alors en fait, il y en a qui sont justement passionnés d'histoire de l'art parce qu'ils retrouvent les codes et ils retrouvent des références à l'histoire de l'art. Et puis par ailleurs, eh ben, y a des gens qui connaissent pas, mais ils sont juste séduits par les couleurs, par les formes. Mm-hmm. Et après, ils me demandent d'expliquer le pourquoi et du comment. Mais voilà, il y a des acheteurs qui ont été séduits, mais juste graphiquement en fait.
Vous aimez les grands formats ? Vous avez une préférence pour les grands formats ?
Ouais, c'est vraiment agréable de travailler sur les grands formats. Je ne peux pas en faire trop parce que quand il y a une exposition, bah, c'est compliqué à transporter. Hein. Ce côté logistique, ce n'est pas évident, mais c'est vraiment agréable parce qu'on est beaucoup plus en immersion. Non, c'est... si je pouvais en faire des plus grands encore, j'adorerais. Mais au niveau de la logistique, c'est compliqué pour l'instant.
Aujourd'hui, l'art est utilisé en thérapie. Est-ce que vous intervenez en milieu associatif ou hospitalier ?
Non, pas encore. Mm-hmm. Pas encore. Je fais partie d'une association, un collectif d'artistes de ma ville. Mm-hmm. J'habite à Saint-Cloud et le collectif d'artistes s'appelle Art en Vue. Donc on se regroupe et puis on fait des actions, on met les actions ensemble pour apporter l'art au sein de la ville. On est en contact directement avec le public. Voilà, on peut exposer.
Vous soutenez la Fondation des femmes ?
Ah oui, oui, oui. Mmh. Oui.
Depuis combien de temps ?
Ça, je vais. Bah, depuis, ça doit faire. Depuis que j'ai commencé, en fait. Parce que quand j'ai peint mes tableaux, en fait, j'ai une amie qui m'a dit : mais dis donc, c'est vachement féministe tes tableaux, là. Je dis oui, mais bon, c'est gentiment féministe. C'est, je veux pas justement être trop violente. Mm-hmm. Oui, bien sûr, il y a une part de féministe. Et donc, j'ai trouvé que c'était complètement logique de soutenir la Fondation des femmes. Donc, en fait, quand je vois un tableau, je leur reverse 10% chaque mois. En fait, bon, c'est une cotisation mensuelle. Voilà, ça c'est. Voilà.
Au niveau de la création, est-ce que vous démarrez comme ça, sans réfléchir à l'aboutissement de l'œuvre, ou vous avez quelques idées ?
Non, c'est vraiment... Il y a une grosse réflexion avant chaque tableau. Mm-hmm. Et donc, je réfléchis en amont. Je fais des croquis. Après, je fais un croquis à taille réelle. Et ensuite, seulement, je commence sur la toile ou sur le bois, parce que je peins aussi sur bois. Et en fait, j'en fais plusieurs en même temps. Parce que quand je reviens après au tracé, je veux pas les faire n'importe comment et je veux que chaque tracé raconte une histoire. Et donc du coup, quand je fais les tracés sur un tableau, ça me permet de réfléchir et d'anticiper sur ce que je vais faire sur les autres. Même sur les tracés, il y a une réflexion.
Avec le temps, est-ce qu'une œuvre peut prendre un nouveau sens pour le collectionneur ou pour l'artiste ?
Ça peut l'être peut-être sur des œuvres peut-être abstraites. Les miennes, je ne sais pas, elles ont déjà un message. Mm-hmm. J'ai l'impression de délivrer déjà un message. Alors,
qui restera le même, toujours.
A priori, peut-être que d'autres y verront autre chose, mais ou peut-être que les personnes vont se l'approprier et vont l'enrichir d'une autre manière. Mais c'est vrai que mes peintures, elles sont figuratives et puis elles délivrent aussi déjà un message. Il y a déjà un texte en plus qui est dessus, qui évite les interprétations. Enfin, mais voilà, de toute façon, à chaque fois, quelqu'un peut se l'approprier et puis se raconter aussi sa propre histoire et projeter sa propre... Alors là, c'est vrai que vous avez la série Pablo, il n'y a pas que cette série. Mm-hmm. Je vous invite à visiter mon site internet, mon portfolio où j'ai d'autres tableaux, mais
le site,
graphiquement, vous retrouverez. Graphiquement, c'est le même ADN, de toute façon.
L'adresse de votre site, c'est lali-l'artiste.com.
Oui, c'est ça. Mm-hmm.
C'est la première fois que vous exposez au Salon Art Shopping Paris ?
Non, j'avais exposé déjà à Expo for Art en juin à Paris, et puis avant, l'année d'avant, enfin, avant Covid, c'était à Saint-Cloud. Là, la prochaine expo, c'est à Paris, c'est Art 3F à Paris, Porte de Versailles, en janvier 2022. Et j'ai un projet, en fait, justement, avec la Fondation des femmes, J'ai une série de tableaux sur des portraits de femmes que je voudrais, qu'on a prévu avec la Fondation des femmes, d'exposer à la Cité Audacieuse à Paris. Voilà, donc je suis en contact avec la Fondation des femmes. Il faut que je me mette en contact avec la Cité Audacieuse pour voir dans quel cadre on pourrait organiser cette expo. Et voilà, les tableaux sont déjà faits, sont déjà réalisés. Mmh. Et voilà, ça c'est un projet. Bonjour tout le monde, merci de vous intéresser à l'art. Je m'appelle Lali l'artiste et vous pouvez retrouver mon travail qui est féminin, un petit peu féministe, gentiment féministe, sur lali-l'artiste.com.
Pendant de très longues années, lorsqu'on parlait d'art, beaucoup de personnes pensaient que c'était l'affaire des riches. Et aujourd'hui, est-ce que la question se pose encore ? Poursuit ce voyage artistique et créatif.
Plutôt gauche ou plutôt droite ?
C'est
immense. Ouais. Bah, si vous voulez, on peut aller à droite et puis...
La vache.
C'est bien dit. J'ai entendu quelques visiteurs dire justement qu'il manquait aucune édition et qu'ils étaient très contents de retrouver le salon après le Covid surtout. We are just visiting for right now, and then the journalist will come. Mm-hmm. Do you speak Spanish? Vous parlez espagnol ou pas?
Non,
ça. You're welcome.
Beaucoup d'artistes qui viennent, qui participent au salon, découvrent également Paris.
Eh ben oui, effectivement. Et c'est drôle parce que justement, quand ils parlent du salon, ils disent qu'ils exposent au Louvre. Donc j'aime bien ce raccourci, je le trouve plutôt joli. C'est la première fois que vous venez ? Alors là, voilà, il y reste une allée qu'on n'a pas faite, si vous voulez qu'on la voit. Pour la petite histoire, ça, c'est une artiste que j'aime énormément, qui s'appelle, je ne voudrais pas écorcher son nom, c'est Myriam Où est-ce que je pourrais avoir son nom? Ah voilà, non, toujours pas. Ici. Ouais, Myriam Alakbrali, donc qui fait ses dessins, ses grandes peintures, pardon, et qui vient d'Azerbaïdjan et qui est atteinte de trisomie. Et donc on appelle ça son l'art naïf et je trouve ça absolument magnifique. Il y a plusieurs de ses peintures. Tout le monde devrait pouvoir s'offrir une œuvre d'art. Justement, avec Art Shopping, c'est à la portée de tout le monde d'être collectionneur. Là, c'est bien parce qu'il y a encore une grosse partie du salon qu'on n'a pas faite. Donc je pense que le temps qu'on fasse tout, vous pourrez revenir là. C'est dans la boîte. Ah.
Les rendez-vous de Marie. Hein, c'est joli.
Geneviève, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire passionnée depuis combien de temps ?
Depuis 15 ans maintenant.
Est-ce que vous pourriez nous présenter votre librairie, la 23e Marche ?
C'est une librairie généraliste, étant donné que c'est dans un petit village et qui a la particularité d'être au premier étage.
D'où le nom 23e Marche. On est à la 23e Marche ?
Tout à fait.
D'accord.
Il faut monter 23 marches pour accéder à cette librairie qui est, comme je le dis toujours, idéalement située à 4,50 m de hauteur, qui est juste en face de la mairie.
Elle est ouverte depuis combien de temps ?
Mars 2007.
Contrairement à d'autres secteurs, je veux dire, certains commerçants peuvent fixer le prix de leurs livres comme ils souhaitent. Vous avez une marge ?
Alors nous, Et le prix du livre unique, c'est la loi Lang en 1981 qui nous a permis de rester un des maillons les plus forts en Europe des librairies indépendantes. S'il n'y avait pas eu le prix unique, on n'existerait plus. Ce qui s'est passé en Italie, en Angleterre, il y a eu un vrai ravage dans les petites librairies indépendantes. Mais avec Jacques Land, merci Monsieur Jacques Land.
Vous avez beaucoup de commandes faites par des collectivités ?
Oui, il est évident qu'une petite librairie sans le soutien des collectivités aurait du mal à tenir en banlieue. Je ne suis pas persuadée que ça soit le même profil à Paris.
Il y a beaucoup de clients que vous connaissez leurs habitudes. Comment vous faites pour les conseiller ?
Alors, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de clients que je connais, l'habitude. Et puis, en fonction de ce qu'ils s'aiment, j'essaye d'ouvrir le débat, de leur trouver d'autres livres qui pourraient les intéresser.
Vous suivez votre intuition, vous êtes un peu comme un mentaliste ?
Oh, faut pas exagérer ! Faut pas exagérer ! Par contre, je vais donner un petit exemple. Quand un gamin de 12 ans, un enfant de 12 ans, est passionné par le football ou le tennis ou l'automobile, il ne faut pas aller dans le livre pour enfants. Il faut tout de suite aller dans le documentaire pour adultes. Parce que bien souvent, ils connaissent plus le système, le sujet qu'un adulte.
Vous ne craignez pas la concurrence des livres sur Internet, vous ?
Alors, des livres numériques ? Alors, bizarrement, ça n'a pas tant d'impact que ça, parce que le livre, ça reste un objet. Vous allez le transférer, vous allez le transmettre, vous allez l'offrir numérique, l'offrir, le transmettre, pas vraiment. Les Américains, ils étaient persuadés que le livre papier serait supprimé. En Angleterre, par exemple, je vais donner un exemple d'une librairie qui est à Pignon-sur-Rue à Londres, qui s'est mise à vendre des liseuses, etc. Ils ont arrêté. Parce que c'est pratique quand on part en vacances, peut-être, mais on n'a pas la joie de l'odeur, du toucher, de relire des passages qu'on a envie, de se repérer un petit peu sur l'avancement du livre. Moi, je refuse d'utiliser une liseuse. Je vends des livres papier, je ne vais pas me mettre à utiliser une liseuse. Puis c'est toujours le même schéma. J'ai des clientes ou des clients qui, on leur offre une liseuse parce que c'est des gros lecteurs, et qui, en catimini, reviennent en disant « quand même, je préfère le livre papier ».
Vous avez combien de livres ici ? Il y en a beaucoup, hein ?
Oui. Oui, je dirais à peu près 12 000 livres. Vous le voyez que c'est un peu surchargé.
Et vous êtes seule à tout ranger ?
Oui.
D'accord. Est-ce que vous proposez des ateliers ?
Non,
pas de rencontres avec des auteurs ?
Si, des dédicaces, des rencontres. J'en proposais beaucoup plus avant la Covid. Maintenant, c'est un peu plus difficile, mais j'en refais là en décembre.
Est-ce que on pourrait faire un tour de votre librairie ? Nous présenter quelques livres ?
Ma librairie est rangée quand même par section. Il y a une grande pièce adulte.
Là où nous sommes.
Là où vous êtes. Il y a une pièce enfant. J'ai un énorme couloir qui me sert pour les livres d'art. Et au fond du couloir, les livres bien-être. Et dans la pièce caisse, accueil, ce sont les prescriptions scolaires.
Est-ce qu'il y aurait un livre que vous aimeriez nous présenter ?
Je viens de finir un livre.
Vous en lisez combien par semaine ?
Ça dépend des moments, mais... En ce moment, j'en lis à peu près 2 par semaine. Après, j'ai des moments de répit, c'est 1 par semaine, le soir. Alors là, je viens de terminer. Alors, c'est True Story chez Gallmaster. C'est un livre qui parle de la rumeur et des dégâts que ça peut faire sur plusieurs années. C'est une réflexion et une manière aussi de raconter des histoires, parce que c'est une histoire de rumeur, mais elle va prendre plusieurs formes. Elle va prendre la forme de courrier, elle va prendre la forme aussi de synopsis pour un film. C'est un premier roman d'une Américaine qui s'appelle Kate Reed Petty, et c'est vraiment assez passionnant. Et puis, on est pris dans une intrigue qui va s'accélérer dans les 100 dernières pages. Et c'est la vie, le dégât de ces rumeurs, ce que ça peut entraîner comme dégât sur sa vie personnelle. Ça tourne autour de 20 ans.
Mais vous, en tant que libraire, vous n'avez jamais eu envie d'écrire un livre,
non ? Non, non. Non, je ne sais pas écrire. J'aime lire. Je ne sais pas écrire. Et il y a des libraires qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas envie. Il y en a qui ont envie d'écrire, mais moi, non. J'aime lire, j'aime retrouver, découvrir des univers différents, m'imprégner d'une culture différente, apprendre des choses, parce que dans tous les livres, on apprend quelque chose. Par exemple, celui-ci que je viens de terminer, on est vraiment dans l'univers d'une petite ville américaine et on s'y croit. Comme un film, quoi, on a les images. Alors, une petite astuce, un ouvrage va vous coller, va fonctionner pour vous quand vous allez oublier les phrases et voir les images. Ça, c'est une preuve que le livre vous happe dans son univers.
Vous avez toujours voulu être libraire ?
Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des gens qui veulent changer de vie. Eh bien, moi, j'ai fait cette reconversion. J'en avais marre à un moment de mon précédent boulot et j'ai voulu m'orienter différemment vers mes premiers amours. J'ai toujours lu. En tant que libraire, si on change, on devient libraire après avoir fait une autre expérience professionnelle. Il faut aimer lire d'être libraire. Hein. Pour être libraire, il faut aimer lire. Sinon, ça n'a aucun sens.
Vous avez déjà lu presque tous les livres ici ?
Oh ben non, bien sûr. Bien sûr que non.
C'est génial, hein. C'est un beau métier en tout cas. Est-ce que les parents viennent souvent pour leurs enfants prendre des livres ?
Oui, oui, oui. Alors comme je suis à côté d'une psychologue, je vois que les enfants sont attirés par les livres. Mais les parents sont toujours pressés. Ils disent, on reviendra, on n'a pas le temps. Alors c'est peut-être une question de budget aussi, hein. Moi je n'en mêle pas, mais je sens que l'appétence des enfants pour les livres, elle est très forte. J'ai pas mal de gamins pendant les vacances qui montent, qui regardent. Bon, je ne vais pas vous cacher que les mangas, c'est la grande mode en ce moment. Regardent les mangas, sont curieux. Et moi ça me va bien, je suis ravie que les jeunes aiment l'objet, le regardent. Comme c'est une petite librairie, il faut avoir une large plage horaire. Donc je suis ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h30 non-stop et le dimanche matin de 10h à 13h.
Graines de mémoire pour que les histoires vécues ne soient pas perdues. Je suis fière de mon travail. J'ai choisi de ne pas me marier. On vit ensemble avec mon compagnon. On a eu 5 enfants. Il n'a jamais été question de mariage. Pour moi, je suis une femme libre. Il y a le respect entre nous. Le respect, c'est le plus important. J'ai commencé à travailler très tard, seulement après avoir élevé mes enfants. J'ai 5 enfants. Ils ont tous grandi à Persan. J'ai commencé quand ma dernière fille était en primaire. Je participais à beaucoup de sorties de l'école comme parent pour aider à encadrer les enfants. Je ne faisais que du bénévolat. Un jour, la directrice de l'école m'a demandé si ça m'intéressait de travailler un peu, car il manquait une personne. J'ai commencé en 2003 à travailler pour la mairie. Je n'étais pas titulaire. Je faisais les cantines seulement au début. J'ai aimé ce travail où il fallait s'occuper des enfants. C'était un peu comme la continuité de mon activité de maman. Ça m'a fait du bien de travailler un peu. À côté, je continuais à faire du bénévolat pour accompagner les enfants à la piscine ou en sortie. Pour moi, c'était positif. C'était autre chose que la maison. Ça me permettait de voir autre chose, de voir d'autres gens. Après, il manquait de personnel et on m'a proposé de travailler plus. Dès qu'il manquait quelqu'un, on me proposait de prendre sa place. En plus de la cantine, je faisais le nettoyage des classes. On me disait que j'étais trop vieille pour être embauchée à la mairie comme titulaire. Puis j'ai continué à faire des remplacements à droite et à gauche, un peu partout sur la ville, comme ça pendant 9 mois. En 2012, à 52 ans, j'ai pu être embauchée à la mairie comme titulaire. Pour pouvoir toucher ma retraite, je suis obligée d'aller jusqu'à au moins 65 ans. C'est un métier dur, le ménage, mais ça va. Je n'ai pas trop de problèmes. On est fatigué avec l'âge, c'est normal. Faire le ménage, ce n'est pas un métier valorisant, mais c'est ce qui me permet de vivre. Je suis fière de mon travail. On laisse un endroit sale pour en mettre un propre. C'est valorisant pour celui qui le fait. Pour les autres, non. On est rarement remercié pour ce que l'on fait. On est invisible pour les autres. Ils ne se rendent pas compte de ce que l'on fait. On a l'habitude. Élise, 61 ans. Récit écrit par Ludovic Souliman à partir de paroles collectées auprès d'habitants de Persan. Un petit groupe de 11 enfants de la ville de Persan se sont réunis pour former le collectif La Rue aux Enfants. Avec leur regard d'enfants habitants, chaque mardi, ils réfléchissent ensemble, élaborent des projets qui leur permettront de s'exprimer, d'agir pour les autres, pour leur commune et être ainsi acteurs de leurs projets. Pour sensibiliser les Persanais aux droits de l'enfant à l'aide de perches et de micros, les petits journalistes professionnels sont allés à la rencontre des habitants. Enregistrement. Prise 1. Action.
Micro-trottoir, la rue aux enfants qui est présentée actuellement par les enfants.
Micro-trottoir de la rue des enfants.
Des droits d'enfants.
Quelle est la date de la journée internationale des droits de l'enfant?
Je n'ai vraiment aucune idée.
C'est le 20 novembre.
Parmi les droits de l'enfant, pourriez-vous m'en citer un?
Les droits de l'enfance?
Oh ben il y en a pas mal, hein, mais bon.
Non, mais juste un.
Juste un, mais là, ça vient pas. Mais bon, ben là, pour l'instant, je peux pas sortir d'emblée des lois, mais bon, ils ont les droits.
Vous n'avez pas d'autres questions?
Bah le droit d'aller à l'école, par exemple.
Bah de l'éduquer, déjà. L'éduquer, le nourrir.
Bah moi, je dirais la liberté d'expression.
Moi, je dis chocolatine, hein. Je dis 5, je dis peigne.
Tout le monde à la gare va me regarder. Oh là là, il y a un journaliste.
La rue aux enfants.
Combien d'articles y a-t-il dans la Convention internationale des droits de l'enfant?
Oula, je sais pas c'est quoi.
Bah plusieurs, je pense, parce qu'il y a plusieurs domaines de souffrance chez un enfant.
Alors j'en ai aucune idée.
54.
Wow. Dans la Convention des droits de l'enfant, il est écrit « J'ai le droit de dire non ». Ça veut dire que je peux dire non à quand mes parents me demandent de ranger ma chambre?
On doit être obéissant à ses parents, non?
J'imagine, ouais.
Bah après, je sais pas, les parents, faut les écouter quand même. Enfin, moi, je dirais pas non.
Ah ben non, il faut qu'on range la chambre, non? Quand on demande quelque chose aux enfants, faut pas dire non. Oui, maman, ou attends, maman. Voilà, mais on dit pas non à maman.
Micro-trottoir, la rue aux enfants.
Un micro-trottoir, on veut mettre à vous vieux pourquoi là?
La rue aux enfants.
Quel est le numéro à contacter si tu es confronté à une situation de maltraitance?
Je sais pas, je le connais pas.
Le 119.
C'est le 112, non?
119, ah voilà.
Je suis grand-mère, donc du coup, les numéros de maltraitance, c'est derrière mon dos. Hein. Alors, c'est quoi le numéro?
C'est 119.
119, ok, c'est... Nina, tu retiens 119, d'accord? Il n'y a jamais un problème, 119, ok?
Quand tes parents te demandent de ranger ta chambre, est-ce que tu vas le faire?
Oui.
Oh my God, c'est la première fois que je fais ça. Oh my God.
Cette émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur les mêmes fréquences, toujours à la même heure. Et la semaine prochaine, nous parlerons de cuisine.
Et voilà, c'était les rendez-vous de Marie.